Chapitre 20. Didi aimait savoir où elle mettait les pieds. Donc, avant de partir retrouver Keynes et la victimologue Pam Mason à l'antenne du FBI, elle alla au plus simple et tapa le nom de cette dernière dans Google. D'après sa bio professionnelle, Pam Mason avait un master en psychopathologie et criminologie de l'université John Jay. Elle avait géré des situations de crise dans un grand foyer pour femmes sans-abri à Détroit, sacré baptême du feu, pensa Didi, avant d'être recrutée par le FBI, où elle avait occupé divers postes ces 15 dernières années, luttant notamment contre le trafic d'êtres humains pendant une brève mission à Miami, puis intégrant l'équipe spécialisée dans les crimes contre les ressortissants américains à l'étranger. Elle était connue pour être intervenue dans une importante affaire d'enlèvement au Mexique. Le cadre de la compagnie pétrolière avait été libéré, et lors d'un autre kidnapping au Guatemala, où les trois jeunes missionnaires américains n'avaient pas eu la même chance. Autrement dit, le CV de la dame était aussi impressionnant que le nombre de miles qu'elle avait dû accumuler auprès des compagnies aériennes. Didi se demanda ce qu'elle pouvait penser de la vie à Boston, et en particulier de la mission qu'elle remplissait actuellement auprès de la famille Summers. Keynes avait organisé l'entrevue dans les locaux du FBI en centre-ville. Le choix du lieu ne surprenait pas Didi. Les agents fédéraux adorent jouer à domicile. Jamais elle ne comprendrait qu'on puisse se sentir chez soi dans cet énorme bloc de béton, un des immeubles les plus laids de Boston, à son humble avis. Cela dit, comparé au Hoover Building de Washington, vraiment, le gouvernement fédéral ne décrocherait jamais la palme du bon goût. Didi se posa la question d'emmener Phil avec elle. Bien sûr, il avait son travail à accomplir avec son équipe, et notamment avec cette chère Carole. Mais le FBI accordait beaucoup d'importance aux apparences. Dans la mesure où elle allait rencontrer deux agents fédéraux, il aurait semblé logique, plus équilibré, que deux représentants de la police de Boston soient présents. Mais sitôt que cette idée l'effleura, Didi sut qu'elle ne la suivrait pas. Précisément parce que ça puait le calcul politique à plein nez et qu'elle avait horreur de ses guéguerres. Si elle avait appelé Keynes depuis l'appartement de Florence Dane, ce n'était pas parce qu'il était une grosse pointure au FBI, mais parce qu'il faisait partie de l'entourage de la victime. Elle avait bien l'intention de continuer sur ce pied. La disparition de Flora était une affaire qui relevait de bout en bout de la police de Boston, d'où la participation de Didi à l'enquête en tant que superviseuse. C'était elle qui avait souhaité rencontrer le Dr Keynes et Pam Mason, et ce serait elle qui s'en chargerait. Elle fut agréablement surprise de trouver Keynes en train de l'attendre dans le hall du FBI. Étant donné qu'on était dimanche et que les agents fédéraux se vantaient d'avoir des horaires d'employés de banque, contrairement aux policiers municipaux corvéables à merci 24 heures sur 24, le calme régnait dans le bâtiment. Didi dut néanmoins montrer patte blanche et signer une querelle de déclaration sur l'honneur, même si, quel dommage, elle n'eut pas à enregistrer l'arme de poing qu'elle n'avait plus l'autorisation de porter. Quand elle eut son laissez-passer visiteur, Keynes la guida jusqu'aux ascenseurs et ils décollèrent. Avec Keynes, pas de bavardage poli. Pas de « vous vous êtes garé facilement ? Pas trop de mal à trouver nos bureaux ? Quelle chance on a avec le temps pour meubler ?» Non, il gardait le silence, les mains jointes devant lui, pendant que défilaient les étages. C'était la première fois que Didi le voyait sans son gros manteau noir. En guise de tenue du dimanche, il avait opté pour un costume gris anthracite qui tombait impeccablement, taillé dans un tissu subtilement texturé. Didi se demanda s'il avait une penderie pleine de costumes tous plus élégants les uns que les autres. Mais combien de temps et d'argent consacrait-il donc à sa garde-robe? Elle-même avait mis sa veste en cuir caramel. C'était sa préférée. Elle la portait jusque dans les périodes les plus froides et les plus sombres de l'hiver. Et voilà qu'elle remarquait à quel point le cuir était brillant et usé au poignet. Oh, et puis il y avait cette tache de jus de pomme en bas à droite. Magnifique. L'ascenseur s'arrêta. Les portes s'ouvrirent. Keynes l'invita à sortir la première. D'après les recherches de Didi, le FBI employait plus de 120 victimologues et 4 superviseurs. Le Dr Keynes, en tant que grosse légume, avait droit à son bureau personnel, où l'on trouvait un imposant mobilier en merisier, de longues étagères de livres et une petite table de réunion sur le côté. Sur son bureau, un ordinateur dernier cri, un pot en cuir contenant les stylos et les feutres de rigueur, mais aussi, incroyable mais vrai, un Rubik's Cube, les couleurs en désordre. Le regard de Didi se posa sur le casse-tête qui avait fait fureur dans les années 1980, et aussitôt, elle brûla de le résoudre. « Allez-y, si vous voulez », dit Keynes, qui avait suivi la direction de son regard. Elle garda les poings serrés à ses côtés. « Qui l'a défait ?»«
Moi. »
« Pour le résoudre plus tard ? Ou pour me tester avant cette petite réunion ?»«
Commandant, vous accordez beaucoup trop d'importance à un simple jouet. »
Elle le regarda d'un air soupçonneux. « Vous êtes spécialiste du comportement. Logique que je me méfie. » Il sourit. Cela lui allait bien. Cela adoucissait la sévérité de son crâne lisse, de ses pommettes hautes. Un instant, il eut presque l'air humain.
J'aime bien le mélanger. Cela m'aide à réfléchir. Et après ce que nous avons découvert chez Flora, j'ai eu amplement matière à réflexion.
Moi, ce sont les mobiles que j'aime bien, avoua Didi. Observer des structures complexes qui, à première vue, apparaissent comme un tout gracieux, mais qui, en réalité, sont composés de multiples étages dont chacun bouge à un rythme bien précis. On frappa à petits coups derrière eux. Keynes et elle se retournèrent vers la femme qui se tenait sur le seuil. Pam Mason, supposa Didi. De prime abord, elle semblait plus âgée que Didi ne l'aurait cru. Des cheveux blonds cendrés rassemblés en un dense nuage de boucles, le genre de coiffure qui était en vogue à peu près à la même époque que le Rubik's Cube. Même si on était dimanche, elle avait, comme Keynes, revêtu une tenue stricte, avec toutefois un résultat moins élégant parce qu'elle avait opté pour un tailleur beige à épaulettes des années 1990 et un chemisier en soie crème, boutonné jusqu'à la gorge et agrémenté d'un jabot. Elle faisait à peu près la même taille que Didi, mais avec la carrure de déménageur de sa veste, elle semblait nettement plus large. Elle se comportait aussi en femme investie d'une mission et, coinçant son dossier sous l'autre bras, tendit la main à Didi.
Commandant Warren,
Pam Mason, victimologue. J'ai cru comprendre que vous aviez des questions sur la famille Summers. Elle saisit la main de Didi d'une poigne ferme, la secoua deux fois, se tourna vers Keynes pour lui donner une poignée de main tout aussi vigoureuse et se dirigea droit vers la table de réunion, déjà à pied d'œuvre. Didi dut reconnaître que, même si elle n'avait pas une haute opinion de son tailleur, elle appréciait le style de cette femme. En hôte prévenant, Keynes leur proposa un café. Les deux femmes acceptèrent aussitôt et il partit en quête du breuvage préféré de tout enquêteur.
« Le docteur Keynes m'a mise au courant de la situation », indiqua brusquement Pam.
« Parfait. » Didi retira sa veste d'un roulement d'épaule, rendue malhabile par la raideur de son bras gauche. Elle prit un siège. « Vous comprendrez, je suis sûre, que pour l'instant nous travaillons dans la plus grande discrétion en ce qui concerne la disparition de Florence Dane. Si la presse s'emparait de cette histoire, cette même presse qui étrit la police de Boston dans ses journaux du soir, vous voulez dire ?
Dieu merci, on était samedi, commenta Didi, étant entendu que les émissions d'information du week-end sont moins suivies que celles de la semaine.
Pam Mason haussa un sourcil, mais garda ses réflexions pour elle. Elle joignit les mains et les posa sur la petite table.
« En quoi puis-je vous être utile ?»
Keynes revint avec deux tasses de café fumant pour elle et sans rien pour lui. Était-il à ce point un surhomme qu'il n'avait même pas besoin de caféine ? Ça se tenait.
« D'après ce que j'ai compris, Rosa Dane intervient comme mentor auprès des Summers. »
Pam Mason confirma d'un signe de tête.
« Je me demandais... » Didi rassembla ses idées. Elle ne savait pas très bien dans quelle mesure elle voulait montrer son jeu, ou même si elle en avait un.
Je souhaiterais mieux comprendre l'affaire Stacy Summers, du point de vue de la famille. Le père, Colin, m'a appelé ce matin. Dès que j'ai prononcé le nom de Flora, il est parti du principe que c'était elle qui avait tué Devon Golding. Étant donné que ce détail n'avait pas été communiqué à la presse,
il est bien informé.
Exactement. Ajoutez-y le fait que Flora s'est intéressée de près à la disparition de Stacy et qu'il semblerait qu'elle-même soit introuvable. Après un nouveau haussement de sourcils, Pam se donna à son tour le temps de réfléchir. Elle prit une petite gorgée de café.
J'imagine que vous connaissez les circonstances de l'enlèvement de Stacy, finit-elle par dire, puisque l'affaire est entre les mains de la police de Boston. Je sais que nous avons la vidéo d'enlèvement la plus regardée du monde, et pourtant aucune piste concrète. Vous croyez qu'elle est vivante ? Demanda Pam à brûle-pourpoint. La question prit Didi au dépourvu. Elle se tourna bizarrement vers Keynes, qui était assis avec ses longs doigts élégants dressés en clocher devant lui. « Comment dit-on déjà ? » finit-elle par répondre. « Espérer le meilleur, mais se préparer au pire ? J'espère que Stacy est vivante, mais les statistiques ne jouent pas en sa faveur. » Pam hocha la tête. Nul doute qu'elle connaissait comme eux tous l'importance des 24 premières heures dans les affaires de disparition. « Il me semble que la question, reprit Didi, c'est de savoir ce qu'en pense la famille. Ou peut-être, maintenant qu'elle y songeait, ce qu'en pense Rosa Dane. La famille a envie d'y croire, répondit Pam, comme la plupart des familles. Mais les jours passant sans aucun signe de vie de leur fille, ils sont soumis à un stress phénoménal, lié à la fois à la douleur de la disparition et au supplice de leur propre impuissance. Comment réagissent-ils ? Curieusement, c'est la mère, Pauline, qui tient le mieux le coup, même si je suis certaine que Colin ne serait pas d'accord. Au dire de tous, ils forment un couple solide, répartition des rôles classiques en Nouvelle-Angleterre. Lui est un banquier d'affaires et travaille comme un fou. Elle a élevé leur fille, tient la maison et fait du bénévolat. La paroisse, le lycée, diverses associations caritatives. Stacy est leur fille unique. Pauline a eu plusieurs fausses couches avant sa naissance, ce qui fait de Stacy une enfant du miracle. Didi grimaça. Elle imaginait que cette épreuve devait retourner le couteau dans la plaie. Avoir perdu plusieurs bébés et ensuite, 19 ans plus tard, voir disparaître l'unique survivante, certainement la prunelle de leurs yeux. On décrit Stacy comme une jeune fille gentille, dynamique, épanouie, sportive, dit Didi. Plutôt son père ou sa mère ? Elle tient de sa mère, aucun doute. Elles sont très proches, le genre de tandem mère-fille qu'on prendrait pour des sœurs. Pauline a très mal vécu la disparition de sa fille. Je ne dirais pas qu'elle est fragile, mais comme elle porte son cœur en bandoulière, sa douleur saute aux yeux. Ils sont soutenus ? Demanda Didi. Très, en plus de leur relation au sein de la paroisse. Ils ont un bon réseau amical dans le quartier, d'autres parents du lycée, ce genre de choses. Au début, ils croulaient sous la nourriture, les propositions d'aide, etc. En fait, une de mes premières tâches a consisté à refouler tout le monde, étant donné l'équilibre psychique précaire de Pauline. Son équilibre précaire ? Le choc initial l'a totalement anéantie. Elle s'est effondrée. Mais, pour être juste, elle a ensuite laissé son entourage la remettre sur pied. La solidarité des femmes de la paroisse, des autres mères, de ses sœurs lui donne des forces. Alors que Colin m'inquiète davantage, le mâle dominant dans toute sa splendeur. Toute sa vie, il n'a pratiquement jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait résoudre. Et maintenant ça. C'est tout son univers qui vacille sur ses bases. Pauline extériorise sa douleur, ce qui permet aux autres de l'aider à porter son fardeau. Colin, lui, est purement dans l'intériorisation. Il était très en colère quand il m'a parlé au téléphone. La victimologue se contenta de hocher la tête. Et le rôle de Rosa Dane dans tout ça ? Elle les remet à égalité. Elle a l'empathie et l'optimisme dont Pauline a besoin. Le sauvetage de sa fille après plus d'un an de calvaire est un exemple de réussite. Mais elle raisonne aussi en tacticienne, ce qui correspond aux attentes de Colin. Elle s'y connaît en matière de stratégie médiatique et d'utilisation des réseaux sociaux, ce qui est indispensable de nos jours. J'imagine que le chargé d'enquête doit adorer, grommela Didi. Pam Mason était philosophe. Tous les enquêteurs veulent avoir la haute main sur leur dossier et toutes les familles veulent participer aux recherches. Est-ce que Stacy était proche de ses parents ? Demanda Didi. Très. Des raisons de soupçonner la famille ? Non, j'accompagne les Summers depuis 3 mois. Un vrai modèle de famille soudée. Et franchement, je ne dis pas ça à la légère. Dans mon métier, on passe plus de temps à sortir des squelettes des placards qu'à encadrer des photos de familles heureuses. Donc, Pauline s'appuie sur sa famille et ses amis pour traverser l'épreuve. Tandis que Colin remâche sa colère et s'en prend aux enquêteurs. Il a repris le travail ? Oui, il a réduit ses heures, mais je lui ai conseillé de retourner au bureau. Rester à la maison ne lui valait rien. Travailler l'aide à tenir le coup. Une idée que Didi ne pouvait pas contester, étant donné son propre tempérament. Est-ce que son épouse lui en veut ? Non, comme beaucoup de femmes au foyer, elle a l'habitude que la maison lui appartienne. La soudaine présence de son mari 24 heures sur 24 a tendu les relations conjugales plutôt qu'elle ne les a aidées. Une partie de mon travail auprès des familles consiste à leur faire comprendre que plus elles s'éloignent de leur routine habituelle, plus le stress de chacun augmente. Vivre normalement est aussi une excellente stratégie pour affronter la crise. Est-ce que Rosadaine est d'accord avec cette idée ? La spécialiste hésita. Rosa est un mentor comme on en voit peu. Elle écoute Pauline. Elle parle à Colin. Elle m'a impressionnée. D'une manière générale, le programme du Centre national pour les enfants disparus et exploités... Je n'ai jamais rencontré de mentor familial, avoua Didi. Le programme part d'une excellente intention. Que les parents qui ont déjà vécu le pire soutiennent les familles pour lesquelles l'épreuve ne fait que commencer. Je ne doute pas que les volontaires reçoivent une petite formation avant de remplir cette mission, mais au bout du compte, ce sont toujours des amateurs, pas des experts. Ils n'ont connu qu'une seule situation. Tandis que les gens comme moi, comme nous, ajouta-t-elle après un bref regard vers Keynes, devant une crise, il n'y a pas de réponse type. Notre travail consiste à évaluer la famille et à identifier l'approche qui conviendra dans cette situation précise, alors que les mentors bénévoles, forcément, ils réagissent en fonction de leur propre traumatisme. Tous leurs conseils, leurs suggestions ont plus à voir avec leur personnalité et avec ce qu'ils ont vécu qu'avec la famille qu'ils sont censés soutenir. À mon sens, ils cherchent davantage à corriger ce qu'ils ont perçu comme des dysfonctionnements dans leur affaire qu'à aider la nouvelle famille à traverser ces événements. Cela dit, Rosa... Pam fronça les sourcils. Rosa appartient à cette espèce rare capable de faire la différence entre la disparition de sa fille et ce que vivent les Summers. Elle les rencontre souvent ? En personne ? Non. Elle vit à 3 ou 4 heures de route et comme en plus, pendant le premier mois, la presse déchaînée a campé sur le trottoir des Summers. Elle communique par téléphone. Essentiellement. Je ne saurais pas vous dire à quelle fréquence. Le téléphone des Summers sonne beaucoup. Mais vous l'avez rencontré, manifestement. 2 fois. La première, elle a passé l'essentiel de la journée avec Pauline, à lui tenir la main en silence. Pam s'interrompit, regarda Didi intensément pendant 1 seconde. C'est rare, vous savez. Les gens capables de simplement être avec quelqu'un. En théorie, c'est moi la spécialiste et je ne suis même pas très bonne à ce jeu-là. Vous avez un travail à accomplir, contesta Didi. C'est différent. La victimologue haussa les épaules. La deuxième visite s'est produite au moment où l'on franchissait le cap des 5 semaines. Pauline commençait à sortir la tête de l'eau. Rosa a eu une discussion plus stratégique avec le couple. Les questions qu'ils devaient poser, leurs droits, les ressources auxquelles ils pouvaient faire appel. Colin voulait notamment savoir comment se servir des médias, comment lancer un appel personnel pour qu'on lui rende sa fille, ce genre de choses. J'ai vu certaines de ses apparitions à la télé, se rappela Didi. Les recommandations de Rosa tenaient parfaitement la route. La plupart d'entre elles correspondaient à des conseils que nous leur avions déjà donnés, mais je peux comprendre que ça passe mieux dans la bouche de quelqu'un qui a vécu la même épreuve, qui a agi dans la même situation. Ce qu'elle n'arrêtait pas de leur répéter, et je lui en savais gré, c'était qu'il s'agissait d'un marathon et non d'un sprint, que s'ils voulaient vraiment être là pour leur fille, il fallait qu'ils trouvent le moyen de ne plus attendre à chaque instant que le téléphone sonne et qu'ils s'organisent sur la durée. Mettre au point un système pour que la famille et les amis viennent les voir quand ce serait utile, et pas envahissant. Reprendre le travail, les habitudes quotidiennes, ne pas s'occuper des journalistes ou alors à leurs propres conditions. Et ces conseils concernant les relations avec les enquêteurs ? Didi posait la question parce que cela faisait forcément partie des sujets abordés. toutes les familles ont des choses à reprocher à la police. Les enquêteurs ne sont ni des amis ni des alliés. Ils travaillent pour l'État. Si les Summers voulaient vraiment savoir ce qui se passait, il fallait qu'ils engagent un privé. Didi ouvrit des yeux ronds. Ils l'ont fait ?
Colin a parlé de recevoir des candidats en entretien.
C'est charmant. Plus on est de faux, plus on rit. Le responsable d'enquête va être ravi d'apprendre ça. Pam haussa les épaules.
Est-ce que je crois qu'un privé va d'un coup de baguette magique permettre de retrouver Stacy ?
Non. Est-ce que je pense que ça aide Colin à se sentir davantage aux commandes et que donc, à court terme, ça contribue à diminuer son stress ?
Certainement.
Le problème, c'est que Rosa voyait juste.
Il s'agit d'un marathon, pas d'un sprint.
Donc, quand l'enquête du privé piétinera, ce sera finalement aussi difficile à supporter.
Et quand ont-ils rencontré Flora ? Risqua Didi.
La fille de Rosa ? Jamais, à ma connaissance.
Est-ce que Rosa leur a parlé de l'enlèvement de sa fille ?
Oui.
Donc, ils connaissent bien son affaire. Ils ont pu avoir envie de la rencontrer en chair et en os, vous ne croyez pas ?
La preuve vivante qu'une jeune fille peut disparaître dans un bar et être retrouvée saine et sauve ?
Possible. Mais je n'ai jamais vu Flora chez eux.
Elle suivait l'affaire Summers, insista Didi, de très près.
Elle lança un regard à Keynes, qui ne nia pas.
Une fois de plus, Pam haussa les épaules.
Est-ce qu'elle aurait pu leur parler au téléphone ? Demanda Didi.
Pourquoi pas ? Ils ne m'en ont jamais rien dit, mais Colin, en particulier, n'est pas du genre à se confier.
Pourquoi êtes-vous tellement certaine qu'elle a été en contact avec eux ?
À cause de Colin. Son coup de fil de ce matin. Il m'a tout de suite demandé si c'était Flora qui avait tué Devon Golding. Question qui sortait plus ou moins de nulle part. Et quand je l'ai interrogé davantage sur Flora, il est aussitôt devenu évasif. Je mettrai ma main à couper qu'il la connaît, ne serait-ce qu'à cause de sa réticence à répondre.
Je ne l'ai jamais vue chez eux, réfléchit Pam à voix haute.
Et Pauline ne m'a jamais rien dit à ce sujet.
Mais il est possible que Flora ait rencontré Colin à son bureau.
Pourquoi le voir lui et pas Pauline ? Parler au père et pas à la mère ?
J'ai peut-être la réponse à cette question.
Intervint tout d'un coup Keynes. Il était assis en arrière dans son fauteuil, détendu, les doigts refermés sur le bord de la table.
« Je vous écoute, »
dit Didi. Il se tourna vers sa collègue.
« D'après votre analyse de la dynamique familiale, Pauline, la mère, est le cœur de la famille, le centre émotionnel. »«
Exact. » »«
Tandis que le père, Colin, c'est la tête et les jambes. Il s'intéresse à la tactique, aux stratégies, tout ce qui pourrait permettre de retrouver sa fille.
« Mâle dominant », confirma Pam.
Flora ne s'intéresse pas aux émotions. Elles la mettent mal à l'aise. En revanche, bâtir des stratégies, obtenir des résultats.
À cet instant, Didi comprit exactement où Keynes voulait en venir.
Colin Summers n'a pas engagé de détective privé pour retrouver sa fille, dit-elle.
Keynes secoua la tête.
Non, il y a de fortes chances qu'il ait plutôt engagé Flora.